En 1945, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, tout le pays est à reconstruire. La situation sanitaire et démographique est préoccupante. Le parc de logements est dans un état désastreux. La plupart des personnes âgées ne disposent pas de retraite et la mortalité infantile est très élevée. C'est dans ce contexte que les ordonnances du 4 et 19 octobre 1945 matérialisent le projet de sécurité sociale. L'objectif ? Débarrasser les citoyens de l'incertitude du lendemain.
Ah, cette incertitude du lendemain, peu prophète celui qui prétend que nous en sommes tous débarrassés, n'est-ce pas? Bonjour et bienvenue dans cette cinquième visite de la saison 6 du Panthéon décousu, alors que le budget de la sécurité sociale est encore en débat à la représentation nationale et que l'âge du départ à la retraite à 64 ans a été voté au Sénat. Cette semaine, je vous emmène donc dans un siècle de lutte sociale et solidaire avec la rediffusion de la visite faite à cette honorable institution qu'est la Sécu lors de ses 75 ans, il y a donc 2 ans. Nous en profiterons pour honorer la mémoire encore nettement trop discrète de son initiateur au sortir de la guerre, le ministre du Travail, Ambroise Croizat. Commençons par un extrait du film institutionnel réalisé par Jimmy Leopold pour les 70 ans de notre sécurité sociale.
Concrètement, il s'agit de créer un vaste système national d'entraide collective et obligatoire permettant de consolider la solidarité entre actifs et non-actifs, bien portants et malades, riches et moins riches.
Ces caisses ont pour rôle de garantir des moyens d'existence à tous les travailleurs qui se trouvent privés de ressources par suite de maladies, de maternité, d'invalidité ou de vieillesse.
Lui, c'est Pierre Larocque. C'est un haut fonctionnaire né avec le siècle. À 28 ans, il entre au Conseil d'État et fera toute sa carrière dans les ministères. C'est lui que l'histoire officielle a tendance à retenir au sujet de la Sécu. D'ailleurs, voici comment l'économiste et sociologue catholique communiste Bernard Friot résume ses études dans le film de Gilles Perret, La Sociale.
Mais moi-même, quand j'ai fait des études dans les années 60-70, le nom d'Ambroise Croizat n'a jamais été prononcé dans mes cours sur la sécurité sociale. On ne parlait que de Larocque. Nous sommes encore une fois dans ce révisionnisme qui nie l'histoire ouvrière. Je rappelle que Croizat, il est mort d'épuisement à 50 ans et qu'il a eu un enterrement à la Victor Hugo. Et si le peuple de Paris était là, c'est que eux n'avaient pas oublié le rôle du mouvement ouvrier dans la création d'une institution révolutionnaire peut-être.
Alors, enterrement à la Victor Hugo ici ne veut pas dire direct au Panthéon, mais peut-être 1 million de personnes à suivre le cortège en 1951, ce qui montre l'importance du bonhomme. Pour Michel Etiévant aussi. Également savoyard, il a longtemps habité la maison natale des Croizat dans la région d'Albertville. Il sait ce qu'il lui doit, tels les comités d'entreprise avec leurs bibliothèques et leurs bourses étudiantes qui lui permit de devenir historien de la Sécu. Premier extrait de sa conférence pour TVNet citoyenne, postée en janvier 2019.
Il faut se rappeler quand même ce qu'était avant la sécurité sociale. Hein. Comment vivait-on alors? Eh bien, on vit dans la terreur, dans la peur de la maladie et de la souffrance. Et moi, je suis toujours un exemple d'un paysan qui m'a raconté en 1938 à Moutier. Il fait opérer son enfant de l'appendicite. Ça lui coûte 2 vaches. Il en a 3. Vous voyez, l'endettement payé. Payer pour être soigné. Pareil pour la retraite, 5 millions n'ont aucune retraite. Mais qu'est-ce que ça veut dire aucune retraite? Ça veut dire qu'il faut pousser l'activité jusqu'au bout, et la retraite alors c'est la retraite des morts, c'est le cimetière.
En 1910, un système d'assurance vieillesse-invalidité est appliqué à l'ensemble des populations ouvrières et paysannes. 1918, la France en récupérant l'Alsace et la Lorraine découvre les avantages sociaux apportés par l'Allemagne à ces deux provinces.
Près d'un doc posté par des anti-sécurité sociale, la considérant comme, je cite, « un système soviétique au cœur de la France ». Mais disons, va. Bon, qu'en était-il dans les années 20?
Cette constatation provoque dès 1921 le dépôt d'un projet de loi sur les assurances sociales, loi qui ne sera votée que le 5 avril 1928 et qui n'entrera réellement en application qu'en 1930. C'est le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qui assure la tutelle des organismes, qui assume le fonctionnement de ce système qui comporte de nombreuses caisses primaires où les assurés font parvenir leurs dossiers et viennent percevoir retraites et indemnités. En 1932, un nouveau et important pas est franchi dans la protection sociale par la création des allocations familiales qui assurent un complément salarial tenant compte des charges de famille.
Ambroise Croizat naît avec le siècle. Il reste l'un de nos rares ministres à avoir été ouvrier non qualifié. Michel Etiévant.
Son père vit ce qu'on vit, la misère du début du siècle. On est encore à quelques pas de Germinal. Hein. Il travaille 7 jours sur 7 pour 8 sous de l'heure, 12 heures par jour, sans aucune protection sociale, devant les fours, comme ça, Notre-Dame de Briançon, sans aucune protection même physique. Quoi. Ce gamin qui naît dans ses décharges ouvrières, on va le retrouver, pareil, aux côtés du général de Gaulle, à la Libération, pour nous donner une réforme, c'est plus qu'une réforme de la Sécu, c'est un projet de société qui va complètement changer nos vies.
Le jeune Ambroise est de qui tenir ? Écoutez plutôt un bout du parcours de son paternel.
Et voilà que son père, lui prend l'envie de changer la vie, de changer l'atmosphère sociale. Qu'est-ce qu'il fait ce père ? Excédé par les accidents du travail, par le manque de protection sociale, il crée en 1906 le premier syndicat CGT des Alpes. Aussitôt, il est licencié. On le voit dans les archives, le flic de l'époque nous raconte que 10 hommes quittent l'usine, drapeau rouge en tête, c'est Croizat qui le porte, le père Croizat. Aussitôt, la grève de solidarité commence. Toute la Tarentaise se met en grève, parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et les patrons sont tellement affolés, ils viennent de Genève, qu'ils vont venir à Tarentaise pour voir, pour discuter. Quoi. Comme la grève s'étend dans toute la Savoie, et les patrons, ils plient. Ils acceptent donc le nouveau syndicat, mais surtout, une caisse de secours. Et c'est intéressant parce que c'est le père Antoine Croizat qui fait les prémices de la Sécu. Donc le patronat accepte tout, sauf Croizat. On veut bien accepter la fondation du syndicat, la caisse de secours, augmenter les salaires, mais plus du tout cet homme Antoine Croizat. Donc on l'envoie ailleurs. Comme la grève avait été forte, on le mute dans une autre usine du groupe. Il est à peine arrivé à l'usine qui recommence. Il refonde un syndicat et là, on l'envoie balader du côté de Lyon. Le père d'Ambroise Croizat, Antoine, part à la guerre. Il est obligé, lui, à 13 ans, de prendre en charge la famille. Il s'embauche dans une usine de la région lyonnaise. Et le lendemain même, dans une manifestation contre la guerre, il adhère à la CGT.
Il sera présent au congrès de Tours en 1920, où il rencontre un autre jeune syndicaliste important, Marcel Paul. Croizat est métallo, Paul est électricien. Bambin de l'assistance publique, on lui doit notamment les crèches.
Très rapidement, ces deux personnages, ils montent dans l'échelle syndicale et tous les deux, en 1927, se retrouvent à la tête l'un de la fédération CGTU de la métallurgie, Ambroise Croizat, l'autre à la tête de la fédération de l'éclairage. On peut imaginer que les permanents, parce qu'ils sont permanents, restent dans leur bureau à l'époque, pas du tout. Ils deviennent des militants ambulants. C'est le nom qu'on leur donne. C'est-à-dire qu'ils partent sur les routes avec deux valises, dans l'une les effets personnels, dans l'autre les vies ouvrières, et ils font le tour de France, ici pour améliorer un cahier de revendication, là pour susciter une grève. Et c'est dans ce parcours de grève, entre 27 et 34, qu'ils prennent conscience que si on veut lutter, arrêter ce qui est en train de monter de tous les côtés en Europe, le fascisme, nazisme en Allemagne, 33, Hitler est là, Mussolini est déjà là en 22, bientôt Franco. En France, les ligues factieuses menacent la République. Eh bien, pour réaliser tout ça, pour freiner tout ça, il faut réaliser l'unité ouvrière. Dans les années 34, ils désespèrent des fois, en disant on n'y arrivera jamais à réunir cette CGTU et CGT maintenue. Ils y arrivent, c'est ce courant qui va porter le Front Populaire au pouvoir, qui va faire qu'Ambroise Croizat va devenir député de Paris.
Allez, un petit point sur l'importance du Front Populaire, ici sur France Info, en septembre 2016.
Entre mai et juin 1936, 2 millions de grévistes sont dans la rue. Toute la France ouvrière est au ralenti. Et pour la première fois dans le pays, des grévistes occupent des usines. Début juin, chose inédite, représentants du personnel et du patronat se retrouvent autour d'une table et négocient sous la houlette du gouvernement.
Les salaires étaient bas. Quand nous sommes allés à Matignon présenter des fiches de paye au patron dont il ne se vantait pas. Il pouvait simplement redire qu'ils ignoraient cela.
7 juin 1936, signature des accords de Matignon. Les avancées sociales sont exceptionnelles. Bien résumées dans cette reconstitution de l'époque.
Le salaire des jeunes ouvriers est porté de 80 centimes à 3 francs de l'heure. Les journées de grève seront payées intégralement. Et nous obtenons les contrats collectifs, les délégués ouvriers, les 40 heures, 15 jours, de congés payés pour tout le monde.
En combattant pour elle, la classe ouvrière apportera un ordre nouveau sur la terre. Au coup d'un coup de restons unis prolétaires, cette union qui nous renforce. Solidarité mes frères, solidarité mes frères, solidarité mes frères, car l'union nous renforce.
À vous aussi, vous vous dites je connais cet air-là, mais pas avec ces paroles. Ça m'a fait drôle aussi, cette version d'un chant de la guerre de sécession. Donc Ambroise Croizat est député. Il y a même une loi de 36 à son nom.
Elle porte le nom de Croizat, c'est la loi sur les conventions collectives. Parce que tout à coup, c'est la substitution au droit oral et divin d'un patron dans l'entreprise, d'une codification écrite des conditions de travail. Ça, c'est fondamental, quoi. On ne payera plus aux faciès. Le Front populaire se déroule, il va très vite subir toutes les contradictions inhérentes à cette addition de partis différents, qui va très vite craquer devant l'absence de réforme de structure. Et on va très vite arriver à cette terrible grève du 30 novembre 1938. Cette grève va causer le licenciement de 40 000 militants. La CGT est décapitée en 1938 pour des raisons très simples. Daladier décide en novembre 1938, devant la montée de la guerre et arguant de la nécessité de la compétitivité, oui, c'est toujours les mêmes choses, décide de publier un certain nombre de décrets qu'on va appeler les décrets misères, qui reviennent sur tous les acquis, tous les conquis du Front populaire. 40 heures supprimées, congés payés atteintes, convention collective éteinte. Avec des phrases qu'on pourrait entendre aujourd'hui. Daladier disait « La loi de 40 heures, c'est une loi de paresse et de trahison nationale. » Comment voulez-vous qu'un patronat qui s'étrangle à faire vivre une nation puisse travailler avec un peuple qui ne veut pas travailler plus de 40 heures ?
Là, je me dis que ni le patronat ni ses ministres n'ont foncièrement changé. Et dès le début de la guerre, on sent que les députés communistes gênent.
À commencer par Croizat, qui est arrêté le 7 octobre 1939, mis à la prison de la santé. On lui met un costume de bagnard, des fers aux pieds, et on le fait traverser 14 prisons en France avant d'atterrir au fort Saint-Nicolas à Marseille, où là on l'embarque sur un moutonnier en fond de cale avec 36 autres députés communistes pour les envoyer au bagne d'Alger, pétinistes et nazis dans lesquels ils vont croupir. C'est le travail forcé, c'est des simulacres de fusillades sans cesse, c'est le sirocco, c'est la dysenterie. Et Ambroise Croizat va vivre là-dedans 2 ans, et il ne sera libéré qu'en février 1943. On crée ce qu'on appelle un CFNL, Comité français de libération nationale, autour de Gaulle. Autour de ce CFNL, on crée une commission consultative dans laquelle Ambroise Croizat est nommé par la CGT clandestine, président de la commission du travail. Et c'est dans cette assemblée-là qu'il va commencer à mûrir les grandes inventions sociales de la libération, notamment la Sécu. En lien avec qui ? Eh bien, avec ce qui est en train de naître en France, c'est-à-dire le Conseil national de la résistance. Il faut se rappeler ce que c'est. C'est 19 jeunes qui, en toute clandestinité, alors que dehors ça fusille, ça déporte, se réunissent à Paris avec 2 missions. L'une, libérer le pays, unifier la résistance, faire des résistances une résistance. Et surtout, publier un programme qui va complètement changer la vie des gens et annoncer tous les grands conquis sociaux de libération qu'on appelle le programme du Conseil national de la résistance.
Mais vu leur importance dans la société, ils vont glaner à la libération quelques mystères essentiels.
Le rapport de force de la libération est simple. 29% des voix au Parti communiste, 5 millions d'adhérents à la CGT, une classe ouvrière grandie par la résistance, un patronat mouillé par la collaboration. Croizat, il est donc nommé ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Si on avait à faire le catalogue de ce dont il est à l'origine, on prendrait du temps. La Sécu, la généralisation des retraites, il triple le montant des allocations familiales, il double le congé maternité, il crée les comités d'entreprise, la médecine du travail, la prime prénatale, l'allocation de salaire unique, le truc pour les intempéries là, qui n'existait pas auparavant, la loi sur les heures supplémentaires, enfin un cortège de lois en quelques mois.
Votre attention. Document rare, la voix d'Ambroise Croizat en 1946.
Nous franchissons aujourd'hui une étape décisive dans l'application du plan de sécurité sociale dont la France peut, à juste titre, être fière. Celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale.
Michel Etchevon.
Les réticences et les résistances vont se faire jour très vite. Elles viennent de tous côtés.
Wilfred Fregonara, CGTiste en 46.
Il y avait quatre patrons au conseil d'administration. Ils n'étaient pas pour la mise en place de la sécurité sociale d'une manière aussi dynamique que nous. C'est évident.
Bernard Friot.
Tout ça se fait en 6 mois de façon magistrale, ce qui montre aussi les grandes capacités du mouvement ouvrier à gérer. C'est ça qui est insupportable pour une classe dirigeante. C'est pas d'abord qu'elle doit refiler des sous. Son problème, c'est pas le porte-monnaie. Son problème, c'est le pouvoir. Or, ce qui se joue en 46, c'est la démonstration de la capacité de pouvoir du mouvement ouvrier.
Oh, petite devinette pour les plus de 20 ans. Reconnaissez-vous qui parle ?
Et donc, tout ça, il faut le mettre en place, ça coûte énormément d'argent. Où va-t-on trouver l'argent ? Eh bien, on décide au lendemain de la guerre de dire qu'on trouve l'argent sur les salariés eux-mêmes.
Alors, eh oui, l'ancien patron du MELEF, Ernest-Antoine Sellière, une des plus fortunées familles de France.
C'est-à-dire qu'on prend une partie de ce qu'il gagne, c'est ce qu'on appelle la cotisation sociale, et on demande à l'entreprise elle-même de faire la même chose. Et donc c'est une cotisation prise aux salariés et une cotisation prise à l'entreprise qui va venir financer tout ça.
La loi de mai 1946 prévoit la généralisation de la sécurité sociale à tous les Français. Une caisse unique couvrirait tous les risques pour tous les assurés avec une cotisation unique.
Mais il y a eu aussitôt.
Jean-Marcel Jeanneney, ministre des Affaires sociales de Gaulle de 66 à 68.
Une rébellion en quelque sorte. Des commerçants, des artisans, une pression libérale. Ils pensaient que les commerçants, les artisans, les professions libérales étaient moins consommateurs de soins que les autres. Parce que mon Dieu, quand ils avaient un petit bobo, une grippe, quelque chose, ils continuaient à travailler, il fallait bien. Ils ne pouvaient pas fermer leur commerce. Alors que disaient-ils, les salariés, ils demandent des congés de convalescence à tire l'arigot. Et il voulait tellement pas que les gouvernements d'alors sont obligés de céder. Si bien que le système de sécurité sociale ne comprenait ni les agriculteurs, ni les commerçants, ni les artisans, ni les professions libérales.
La gestion est confiée non pas à une administration, mais aux intéressés eux-mêmes, gouvernant des organismes autonomes.
Qui va gérer ? Ceux auxquels on a pris l'argent. C'est-à-dire en fait ceux qui l'ont donné, les entreprises d'un côté, c'est-à-dire en fait les employeurs, et les représentants des salariés, c'est-à-dire les syndicats.
Le paritarisme dans la gestion des caisses, partagé entre les représentants du patronat et des syndicats, devait créer un esprit de coopération entre des classes sociales auparavant en conflit.
La sécurité sociale évolue rapidement, suit les changements de la société française et bouleverse le quotidien de chacun, de la naissance à la retraite, du logement aux soins pour tous. En 83, Pierre Larocque faisait une sorte de bilan.
La sécurité sociale a connu des succès et des échecs. Succès indiscutable, l'établissement d'un sentiment de sécurité dans la masse de la population et particulièrement dans les éléments qui étaient en état d'infériorité. À cet égard-là, c'est une véritable transformation sociale. Deuxième succès, l'amélioration de la santé, qui est spectaculaire. Et les progrès médicaux qui ont été réalisés depuis cette époque n'auraient pas pu être généralisés s'il n'y avait pas eu la sécurité sociale. Succès aussi par le redressement de la natalité. Succès sur le plan économique, parce que la sécurité sociale, bien loin de gêner le redressement économique de la période d'après-guerre, l'a facilité et l'a favorisé, parce que les travailleurs qui ont travaillé en France plus longtemps, à des heures plus longues que dans tous les autres pays industrialisés, l'ont fait avec le sentiment qu'ils travaillaient pour eux et qu'il y avait une contrepartie dans la sécurité sociale.
Et ça, c'est établi.
C'est indiscutable. Alors, il y a des échecs, il y en a eu deux essentiels, à mes yeux. Nous avions basé la sécurité sociale sur une solidarité nationale qui existait Dans l'élan de la libération, et qu'on a vu assister à une résurgence des particularismes socio-professionnels et à la multiplication de régimes qui créent une très grande complication dans l'institution et qui ont diminué son efficacité. Le deuxième échec, c'est que nous entendions en 1945, c'était la volonté générale, responsabiliser les bénéficiaires en leur confiant la gestion de l'institution et en espérant qu'ils se sentiraient responsables de la sécurité sociale, qui était une chose à eux, et qu'ils feraient l'effort nécessaire pour qu'elle fonctionne bien. Cette responsabilisation, nous n'avons pas réussi. Eh bien, il faudrait réagir contre cette tendance que les assurés sociaux, dans un esprit de démocratie sociale, car c'est ça la démocratie sociale. La démocratie sociale, c'est que les bénéficiaires aient le sens de la responsabilité de ce qu'on fait à leur profit.
Oh, est-ce vraiment de la faute des assurés? Réponse partielle pour la sociale des sociologues Colette Beck de Paris Descartes et Frédéric Pierru de Sciences Po.
Peu à peu, on voit comment la dimension politique de la sécurité sociale d'abord se marge et est marginalisée pour être ensuite oubliée. On ne débat plus sur la place de la sécurité sociale dans la société, mais on débat de la place de la sécurité sociale dans l'économie.
Lorsqu'on parle sécurité sociale aujourd'hui, il y a un mot qui vient toujours à coller, c'est le trou de la sécu.
En fait, le débat du trou de la sécu, il occulte un vrai débat qui est quel niveau de socialisation des risques nous voulons.
Très très vite, c'est un pouvoir qui a été donné aux experts et qui masque totalement ce qui est, à mon avis, le béaba de nos questionnements à l'heure actuelle, c'est mais qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce que ça devrait être que être protégé à l'heure actuelle dans une société ouverte, mondialisée, totalement à l'opposé de la société de 45.
Non seulement il semble que l'outil solidaire et mutuel s'est dérobé sous la technocratie, mais en plus on lui fait porter un immense trou irrésorbable. L'économiste atterré, Henri Sterdignac, a un avis clair et argumenté sur ce célèbre refrain des actuels gouvernants. Chronique pour le Média en octobre 2019.
Il s'agit d'une fake news, d'un mensonge d'État. La sécurité sociale est en réalité en excédent de 11 milliards. Elle ne souffre pas d'une hausse de ses dépenses, mais d'une baisse de ses recettes. Pour comprendre la manipulation, il faut regarder les comptes des finances publiques publiés en même temps. On y voit que la sécurité sociale a, en 2019, un excédent de 11 milliards. Pourquoi cette différence ? C'est que le gouvernement impose à la sécurité sociale de rembourser la dette accumulée pendant la crise financière. Donc, en 2019, la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, a remboursé 16 milliards grâce aux recettes de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la CSG. Globalement, la sécurité sociale, au sens large, y compris la CADES, s'est bien désendettée de 11 milliards en 2019. La sécurité sociale est d'ailleurs en excédent depuis 2014. Ben, c'est une bonne nouvelle, car en 2025, quand toute la dette sociale aura été remboursée, ces 16 milliards seront disponibles pour financer la retraite ou pour améliorer les conditions de vie et de travail dans les maisons de retraite, ce qu'on pourrait d'ailleurs faire beaucoup plus rapidement en réduisant le rythme des remboursements. L'État fait peser un effort de désendettement sur la sécurité sociale, mais il oublie de compter cet effort lorsqu'il évalue le solde de la sécurité sociale. En 2019, par rapport à 2018, les dépenses de sécurité sociale ont augmenté de 2,2%, soit nettement moins que le PIB, 2,7%. Il n'y a eu aucune explosion des dépenses sociales. Le problème vient des ressources. Revenant sur sa parole, l'État a décidé de ne plus compenser à la sécurité sociale les exonérations de cotisations sociales, soit au total environ 5 milliards. C'est la cause essentielle du déficit affiché. La sécurité sociale n'est plus autonome. Chaque année, en automne, les cabinets du ministre des Finances et du ministre des Affaires sociales organisent des transferts entre les différents régimes pour éviter qu'un régime ne présente trop d'excédents, ce qui justifierait d'augmenter les prestations. Ainsi, les excédents de la branche famille sont périodiquement transférés à la branche retraite. Les prestations familiales ne suivent jamais l'évolution des salaires et pas toujours celle des prix. Ainsi, le discours sur le déficit de la sécurité sociale sert à justifier l'érosion des prestations.
Et lorsque Gilles Perret, pour son film, invite le vaillant vétéran Jolfred Fregonara dans les locaux de l'École nationale de la Sécu.
Donc, notre amphithéâtre, Pierre Larocque. Et donc, voilà.
Est-ce que vous parlez d'Ambroise Croizat ?
Alors, pour tout
qui était
dire,
ministre
non.
du Travail en 1945, parce qu'il a joué le rôle essentiel Larocque était sous les directives d'Ambroise Croizat.
Alors effectivement, c'est un personnage que, en tout cas moi, personnellement, je ne connaissais pas. Enfin, je ne connaissais pas. En tout cas, je n'avais pas en tête l'importance qu'il avait eue. Et comme vous pouvez le voir dans notre école, on n'a pas de présentation d'Ambroise Croizat.
Ah bon. Ah bon. Ah bon. Les directives d'Ambroise Croizat, pour nous, étaient supérieures à celles de Larocque.
D'accord.
Donc, il faut revaloriser un peu Ambroise Croizat.
D'accord.
C'est ainsi que se termine notre cinquième visite de la saison 6 du Panthéon Décousu. Diffusion les samedis et lundis à 12h02. Podcast à retrouver sur le site de la radio et sur mixcloud.com/Panthéon Décousu pour l'intégrale des visites. Mais ne nous quittons pas sans musique. Le Martiniquais et homme de radio Maurice Alcindor est l'un des rares à avoir consacré une chanson sur la sécurité sociale. Et le créole promet de nous réchauffer un peu. Allez, une dernière de Michel Etchevant, un peu de Badinter et bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa.
Alors comment voulez-vous ne pas être en révérence, en admiration devant un type qui, porté par le peuple de France, dans le sillage du CNR, prononce ces phrases toutes simples. À la libération, désormais, nous en finirons avec les inquiétudes du lendemain. Désormais, la vie ne sera plus une charge ou un calvaire. Désormais, nous mettrons l'homme à l'abri du besoin. La retraite ne sera plus l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Ça change.
Sécurité sociale, c'est en quartier général. C'est là qu'il y a payé, location familiale. L'argent vient travailler, congé payé aussi. C'est là qu'il t'est pour calme, pourtant c'est l'homme qu'on fait. L'air où pointé où c'est dit, l'entrée en cinéma. Tellement marchand de bonbons, qu'à occuper ces places-là. Sécurité sociale, sécurité. Sécurité sociale, sécurité. Sécurité sociale, sécurité. Sécurité.
Il n'y a qu'un sens de l'histoire. Les libertés, on les gagne. Et on les gagne toujours contre ceux qui sont les champions de l'ordre.